vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Fire Emblem Engage. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news concernant le jeu Wolverine. On aura ensuite une news technologie avec tout ce que nous appelons intelligence artificielle qui n'en est pas vraiment. Et on finira avec l'unique sortie de la semaine. On va donc commencer avec le test de Fire Emblem Engage ou Fire Emblem Engage en japonais. Donc c'est un jeu vidéo de genre tactical RPG au tour par tour qui est jouable en solo, développé par Intelligent Systems, réalisé par Tsutomu Tei et Kenta Nakanishi, scénarisé par Nami Komuro avec la musique que vous entendez de Yasuhisa Baba, Kazuki Komai, Hiroki Morishita, Takeru Kanazaki, Fumihiro Isobe et Takafumi Wada. Le jeu a été produit par Masahiro Iguchi, Genki Yokota et Toyokazu Nonaka, et enfin édité par Nintendo. Il est sorti le 20 janvier 2023 sur Nintendo Switch. Il s'agit du 17e volet de la série Fire Emblem, ou le 14e si on exclut les remakes des trois premiers épisodes. Fire Emblem Engage prend place en Helios, un continent composé de quatre royaumes entourant une terre sainte. 1000 ans auparavant, une terrible guerre a opposé le peuple d'Helios au dragon déchu. Cependant, des signes récents semblent présager que ce terrible ennemi est sur le point de renaître. Incarné Alear, membre d'une famille royale de dragons révérés en tant que dieu, qui s'éveille d'un sommeil de 1000 ans sans aucun souvenir de son passé. Le jeu est classé PEGI 12 et il obtient une note de 17 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 8 sur 10 de la part d'Actu Gaming. Donc pour bien commencer 2023, la Nintendo Switch accueille un nouvel épisode de Fire Emblem avec Engage. Face au succès du précédent opus, Three Houses, sorti en 2019, la pression est grande sur cette aventure inédite qui fait la part belle aux fanservice. Donc Fire Emblem Engage est le dernier épisode de la saga Fire Emblem, série de jeux de rôle tactique de Nintendo, vieille de plus de 32 ans. Si la franchise est longtemps restée confinée au Japon, c'est avec la Game Boy Advance qu'elle s'offre sa première sortie à l'international, avec le sobrement intitulé chez nous Fire Emblem. Après des titres sur GameCube, c'est surtout avec la 3DS et Awakening que la licence devient vraiment populaire auprès du public occidental. Une popularité confirmée des années plus tard avec Three Houses, qui a également profité du carton de son support, la Nintendo Switch. Forcément, étant l'épisode d'après, Engage est attendu au tournant par les fans qui espèrent retrouver une expérience aussi prenante. Donc comme chaque Fire Emblem, Engage se déroule dans son propre univers et nous raconte une histoire unique. Cette fois, on découvre Helios, un continent composé de quatre royaumes qui entourent la Terre Sainte de Lithos, terre des dragons divins. 1000 ans avant le début de l'aventure, la région a été ravagée par une terrible guerre contre le dragon déchu, qui a été vaincu grâce au pouvoir des emblèmes, des anneaux qui permettent de faire appel à des héros d'autres dimensions, c'est-à-dire des précédents jeux Fire Emblem. Après avoir emprisonné l'entité maléfique, notre avatar, le dragon divin, entre dans un profond sommeil tandis que le monde est enfin en paix. Malheureusement, notre protagoniste finit par se réveiller 1000 ans plus tard, alors que le dragon déchu semble être sur le point de revenir. Ainsi, tout l'enjeu de l'aventure sera de récupérer les anneaux d'emblème répartis dans les quatre nations d'Helios pour faire face à cette menace. Donc à la lecture de ce synopsis, vous aurez compris que Fire Emblem Engage propose un scénario très classique avec deux camps qui s'opposent et un antagoniste ténébreux clairement défini. Ainsi, on ne retrouve pas le conflit déchirant de Three Houses qui nous pousse à affronter d'anciens camarades de classe dans sa seconde partie. On est donc en face d'une intrigue beaucoup plus classique et manichéenne, comme la série nous présentait par le passé, ce qui fait qu'on a finalement peu de surprises au cours de l'aventure. Au-delà de ça, le titre propose également très peu de choix aux joueurs, ce qui rend le scénario très dirigiste. Pour contrebalancer ce retour à un aspect plus classique, Engage nous fait suivre un groupe de personnages attachants par leur caractère, mais aussi grâce à leur design haut en couleur qui font souvent mouche. C'est d'autant plus le cas en ce qui concerne les emblèmes, puisque l'on revoit des visages bien connus de la saga revenir sous une forme spectrale pour aider nos héros dans leur lutte. Et puis pour ce qui est de la narration en elle-même, on a le droit à de chouettes cinématiques pour les moments les plus importants, mais à côté de ça, les conversations plus banales souffrent d'une mise en scène assez classique, avec de simples chants contre chants et des personnages expressifs mais finalement peu animés. Comme tous les jeux de la saga, le cœur de Fire Emblem Engage est d'enchaîner les combats tactiques au tour par tour, dans lequel le placement de ses unités sur le champ de bataille est primordial. À la manière de Three Houses, on retrouve toutes les options d'ergonomie qui rendent la façon de jouer plus confortable que jamais, notamment grâce à la possibilité de remonter le temps si on s'est trompé de bouton. Au rang des nouveautés, on remarque que le fameux triangle des armes, système si cher à Fire Emblem, est de retour, sous une certaine forme après avoir été absent de l'épisode précédent. Dans Engage, certaines armes permettent de briser la garde de l'adversaire s'il est vulnérable, ce qui l'empêche de contre-attaquer durant son tour. Bien pratique pour enchaîner les assauts sur lui, donc. Enfin, on note également que l'interface a été refaite pour gagner à la fois en visibilité, mais aussi en nombre d'informations affichées puisque ces dernières sont indiquées en bas de l'écran pour ne pas gêner la lisibilité. En réalité, les affrontements de Fire Emblem Engage sont très intéressants grâce à deux éléments bien précis. Tout d'abord, plus que jamais, on profite d'animations en combat particulièrement réussies, visuellement spectaculaires, mais surtout d'une grande fluidité dans leur enchaînement. Que ce soit une attaque, un sort, une parade, une esquive ou encore un coup critique, tout se suit avec naturel, ce qui ne donne pas l'impression d'assister à une succession d'assauts qui n'ont rien à voir ensemble, mais bien à une vraie chorégraphie. Mais la grande nouveauté d'Engage, c'est surtout la mécanique de fusion avec les emblèmes. Donc une fois la jauge adéquate remplie, une unité peut s'accaparer la puissance de l'esprit présent dans l'anneau pour accéder à de nouveaux pouvoirs. Chaque emblème offre des capacités différentes, comme frapper plusieurs fois d'affilée, attaquer un ennemi n'importe où sur la carte, créer des blocs de glace, invoquer des clones, booster ses alliés, etc. Vous l'aurez donc compris, les emblèmes offrent différentes utilisations, ce qui rend ces pouvoirs intéressants à jouer plutôt que d'être tout simplement surpuissants, comme on pouvait le redouter. Et si les combats sont plus accessibles, on retrouve toujours de nombreuses options de difficulté pour adapter le challenge au goût de chacun, comme la perte définitive d'une unité en cas de mort sur le champ de bataille. De quoi rassurer les joueurs hardcore de la saga. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test pour s'écouter une musique extraite du jeu Fire Emblem Engage. Alors c'est The Fire Emblem Battle Records de tous les petits compositeurs que je nommerai juste après. Et on revient donc juste après. c'était la musique The Fire Emblem Battle Records, une musique extraite du jeu Fire Emblem Engage et composée alors par Yasuhisa Baba, Kazuki Komai, Hiroki Morishita, Takeru Kanazaki, Daichi Aoki, Daichi Ishihara et Joya Shiori. Voilà, donc en dehors des combats, une grande partie de l'action de Fire Emblem Engage prend part à Somniel, QG de nos héros qui rappelle l'abbaye de Three Houses. C'est ici que l'on se prépare avant les prochaines missions en achetant de l'équipement, en améliorant ses armes ou encore en faisant le plein d'objets de soins. Dans ces moments-là, on se rend compte que les menus du jeu sont assez laborieux et qu'on a parfois du mal à s'y repérer pour équiper facilement ses unités. Mais Somniel est aussi l'occasion de se rapprocher de ses camarades en discutant avec eux et en partageant des moments d'intimité afin qu'ils soient plus efficaces sur le champ de bataille une fois côte à côte. Une mécanique de gestion des relations sociales bien connue des joueurs de Fire Emblem, qu'on retrouvait déjà dans Three Houses, mais qui joue ici un rôle moins important tout de même. Par rapport à l'épisode précédent, on note l'introduction d'exercices physiques qui prennent la forme de mini-jeux et qui permettent d'obtenir un boost de statistiques pour notre héros qui ne dure que le temps de la prochaine bataille. Mais les séquences à Somniel sont évidemment l'occasion de profiter de petits à côté, comme s'occuper d'une ferme dans laquelle on peut recruter des animaux par exemple. Pour améliorer ces unités, l'un des aspects à ne pas oublier concerne les anneaux. Pour ceux qui possèdent des anneaux d'emblème, ces derniers peuvent apprendre des techniques transmises par les héros en échange de points adéquats. Mais s'il n'y a que 12 anneaux de légende, il est tout de même possible d'en récupérer d'autres grâce à un système d'invocation. Contre des fragments de liens, vous pouvez créer des bagues qui contiennent les esprits de héros mineurs de Fire Emblem, afin de profiter de légers bonus de statistiques pour celui qui s'en équipe. Cependant, puisque le tirage de ces accessoires est aléatoire, cela rappelle évidemment les mécaniques d'un gacha, c'est-à-dire un jeu basé sur l'invocation d'unités ou d'armes sans que le joueur ne sache à coup sûr sur quoi il va tomber. On explique la présence de ce type de mécanique dans des expériences free-to-play, c'est-à-dire gratuites, mais on a plus de mal à comprendre l'intégration de ce genre de système dans un jeu payant à plein pot, surtout vu le peu d'incidence qu'ont ces anneaux sur l'expérience de jeu. Ainsi, comme dans Xenoblade Chronicles 2, un autre jeu de rôle de Nintendo sorti en début de vie de la Switch, on aurait clairement pu s'en passer. Pour terminer ce tour d'horizon de Fire Emblem Engage, il faut noter que l'aspect graphique du titre est assez réussi dans son ensemble. En plus de ses animations de combat spectaculaires, on observe que l'aliasing est assez peu présent et que les modèles 3D des personnages rendent vraiment bien, ce qui est très agréable pour un titre qui tourne sur Nintendo Switch. Cela se ressent également à travers les cinématiques, toujours particulièrement bien mises en scène, même si ces dernières sont déjà pré-rendues et qu'elles ne tournent pas in-game. Évidemment, ce rendu s'explique par le fait qu'on est en face d'un jeu de rôle tactique dans lequel les choses sont assez confinées et les duels entre unités se déroulent de façon automatique dans de petites arènes. D'ailleurs, à ce niveau-là, on note que les environnements sont assez pauvres, ce qui contraste avec les personnages détaillés et colorés. Mais dans l'ensemble, on est en face d'un jeu visuellement réussi pour la Nintendo Switch, même si évidemment il y a moins de choses à afficher que dans un Xenoblade Chronicles 3 par exemple, ou un Bayonetta 3 à qui on avait pu reprocher une technique en dents de scie par exemple. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a un rendu graphique réussi pour de la Switch, des affrontements toujours plus fluides et accessibles, une difficulté ajustable pour tous les publics, des animations de combats soignées et spectaculaires, la fusion d'emblèmes, un outil pour aborder les combats intelligemment, un fanservice agréable avec le retour de visages bien connus, des personnages attachants au design souvent réussi et une bande-son elle aussi également réussie. Pour les points faibles, on a une histoire plus manichéenne que Three Houses, avec moins de choix, une mise en scène un peu trop figée par moments, des environnements assez pauvres visuellement, des menus pas toujours pratiques voire fastidieux, un aspect gacha peu important dont on aurait pu se passer. Donc avec Fire Emblem Engage, la Nintendo Switch s'offre une première exclusivité de qualité en ce début 2023. Comme Three Houses, les combats sont toujours fluides et accessibles et profitent même d'animations spectaculaires qui renforcent le plaisir de jeu. Les affrontements gagnent aussi en profondeur grâce à la mécanique de fusion d'emblèmes qui offre des outils pour aborder les situations avec intelligence. Au-delà de la qualité du design de ses sympathiques personnages, le titre brille également par son rendu graphique, réussi pour de la Nintendo Switch, même si on note des environnements parfois pauvres et une mise en scène statique. Finalement, c'est plus par ses menus pas toujours pratiques et son histoire classique et plus dirigiste que Three Houses que l'expérience pêche un peu. Pas de quoi non plus bouder le plaisir de ce nouveau Fire Emblem, qui reste une excellente façon de commencer l'année manette en main. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter la version japonaise du thème principal du jeu Fire Emblem Engage, c'est Emblem Engage de Ryo, et on revient juste après. C'était Ryo avec la chanson Emblem Engage, la version japonaise du thème principal du jeu Fire Emblem Engage. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec l'unique sortie jeux vidéo de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place, c'est Gran Turismo 7 sur PS5, un jeu de Sony. En 3ème place, c'est Fire Emblem Engage, la Divine Edition sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 2ème place, c'est God of War Ragnarok sur PS5, un jeu de Sony. Et en 1ère place, c'est Fire Emblem Engage, la version normale. Le top 3 pour la PS5, on a en 3ème place Horizon Forbidden West, en 2ème place c'est Gran Turismo 7 et en 1ère place God of War Ragnarok. Le top 3 pour la Xbox Series, on a en 3ème place Forza Horizon 5, en 2ème place FIFA 23 et en 1ère place le pack Cross-Gen Call of Duty Modern Warfare 2. Le top 3 pour la PS4, on a en 3ème place One Piece Odyssey, en 2ème place c'est Call of Duty Modern Warfare 2, le Cross-Gen Bundle. Et en 1ère place, FIFA 23. Pour la Xbox One, on a en 3ème place GTA V, l'édition Premium. En 2ème place, NBA 2023. Et en 1ère place, FIFA 23. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en 3ème place, Football Manager 2022. En 2ème place, Farming Simulator 22. Et en 1ère place, Football Manager, mais cette fois 2023. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc on peut allègrement dire que le planning d'Insomniac Games est chargé. Le studio doit pondre Marvel Spider-Man 2 cette année, puis enchaîner avec Wolverine, un projet dont on ne sait pas vraiment grand-chose. Quelques détails potentiels viennent toutefois d'émerger sur le web. Donc Insomniac Games a toujours été l'un des studios les plus productifs de Sony. Pour cette nouvelle génération, il ne dérogera visiblement pas à la règle et devrait accoucher de Marvel Spider-Man 2 ces prochains mois, en 2023, puis de Marvel's Wolverine, on ne sait pas trop quand encore. Pour le moment, nous n'avons vu qu'un bref teaser vidéo de ce dernier, donc suffisamment pour faire monter l'excitation et alimenter de nombreuses théories, comme la présence de Hulk par exemple. Aujourd'hui, de nouveaux détails potentiels nous parviennent par le biais de Jeff Grubb, journaliste et podcasteur toujours très bien informé, qui s'est laissé aller à la déclaration dans un récent livestream. La première chose à savoir, c'est que selon lui, le titre sortirait à l'automne 2024, soit un an seulement après la nouvelle aventure de Peter Parker. Toutefois, des discussions internes auraient lieu et la publication pourrait finalement être fixée à 2025. L'autre information importante à noter, c'est que Marvel's Wolverine ferait preuve d'une certaine violence avec une mention ESRTB Teen à le SRB. Donc chez notre équivalent, le fameux PEGI, cela correspond à un PEGI 16. Le titre ne se destinerait donc pas aux enfants, chose qui paraît inévitable quand on traite d'un personnage aussi brutal et impitoyable que Wolverine. J'en profite pour rappeler qu'un jeu dédié aux plus sauvages des X-Men était sorti en 2009 sur la plupart des plateformes de l'époque, donc il était intitulé X-Men Origins Wolverine. Il s'agissait d'une adaptation du film développé par Raven Software, donc, qui a notamment développé Wolfenstein et le multijoueur de plusieurs Call of Duty. Une adaptation plutôt réussie et prenant la forme d'un beat'em all très bourrin et surtout ultra violent. L'hémoglobine coulait à flot, les têtes volaient et Logan n'hésitait pas à éviscérer ses ennemis. Donc pour le coup, le soft avait écopé d'un PEGI 18 bien mérité. Avec son PEGI 16, Marvel's Wolverine n'irait donc a priori pas aussi loin que ça dans la barbarie graphique. Enfin, une des grandes questions au sujet du jeu repose sur son design même. Sera-t-il un open world à l'instar de Marvel Spider-Man ? Jeff Grubb précise que non. L'aventure reposerait sur des zones semi-ouvertes et une structure plutôt linéaire, pouvant en quelque sorte se comparer au level design des derniers God of War. Donc je rappelle que rien de tout cela n'est officiel, et bien que Jeff Grubb ait publié de nombreuses coupes avérées par le passé, la prise de pincettes est de rigueur en attendant une déclaration de la part d'Insomniac Games ou de Sony. On passe maintenant à la news technologie, donc l'intelligence artificielle ou IA, s'est définitivement implantée dans notre société moderne. On évoque en effet l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines, mais beaucoup de gens ignorent en fait ce que c'est vraiment. D'ailleurs, certaines choses qu'on désigne comme étant des IA ne le sont pas vraiment. La question est donc de savoir ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est la simulation des processus de l'intelligence humaine par des machines, en particulier par des systèmes informatiques. Le terme est fréquemment appliqué aux projets de développement de systèmes dotés des processus intellectuels propres aux humains, tels que la capacité de raisonner, de découvrir un sens, de généraliser ou d'apprendre d'une expérience passée. Même s'il s'agit d'une science interdisciplinaire avec de multiples approches, l'intelligence artificielle est généralement considérée comme une branche de l'informatique. Les utilisations et les applications de l'IA sont très vastes. Elle peut être utilisée dans presque tous les domaines et les filières, allant de l'informatique aux mathématiques et la physique, en passant par la chimie et la médecine, ou encore l'élevage, l'agriculture, la psychologie, la linguistique, l'art ou la philosophie. Les applications les plus courantes des intelligences artificielles sont notamment l'apprentissage automatique, les moteurs de recherche, les systèmes de recommandation, la compréhension de la parole humaine et les voitures autonomes. Il est important de comprendre que l'intelligence artificielle est une technologie qui évolue très rapidement et la définition même du concept peut évoluer. En effet, à mesure que la technologie progresse, des choses qu'on désignait auparavant comme étant de l'intelligence artificielle peuvent ne plus l'être car elles sont devenues des fonctions inhérentes de l'informatique. C'est notamment le cas des machines qui calculent des fonctions de base ou celles qui identifient du texte par reconnaissance optique de caractères. Par ailleurs, pour être qualifié d'intelligence artificielle, un système doit présenter un certain niveau d'apprentissage et d'adaptation. Pour cette raison, les systèmes de prise de décision, l'automatisation et les statistiques ne sont pas non plus reconnus comme étant de l'intelligence artificielle. Pour ces technologies, on parle donc plus d'analytique avancée que d'IA. Et même s'ils ont également été inspirés par le fonctionnement de neurones biologiques, les réseaux neuronaux artificiels ne sont pas non plus considérés comme étant de l'intelligence artificielle, tout simplement parce que ce ne sont pas des systèmes intelligents. Ainsi, tout ce qui est étiqueté comme étant de l'intelligence artificielle ne l'est pas forcément. Dans ce que nous voyons dans la vie quotidienne, ce ne sont que des noms utilisés pour faire du sensationnalisme autour de la popularité de cette technologie. On appelle notamment ce phénomène l'AI washing. Donc l'AI washing est défini comme étant une stratégie marketing dans laquelle certains individus et entités présentent des produits comme utilisant de l'intelligence artificielle, alors qu'en réalité, leurs produits n'ont qu'un lien ténu ou pas du tout de lien avec l'intelligence artificielle. Voilà, on va pouvoir maintenant finir l'émission très rapidement avec l'unique sortie de la semaine. Ça sera pour jeudi 9 février et ça sera donc le jeu Clash Artifacts of Chaos qui sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h. Je rappelle aussi qu'il y a toujours un jeu à retrouver sur le site de Neptune pour le ciné-concert de Dragon Ball qui aura lieu le dimanche 26 février à 17h au Zénith de Nantes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller participer sur le site. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à chez fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.